La semaine dernière, nous avions commencé un thème qui est celui d'être un modèle. Soit un modèle. Nous clôturerons la méditation ce matin. Je vais juste rappeler la petite histoire et ce qui avait été vu la semaine dernière. Parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qui nous est évident, naturel, de nous positionner en disant « je suis un modèle ». Dans notre culture, ce serait plutôt de la prétention, de l'orgueil, de la vanité, tout ce que vous voulez, mais se dire soi-même « je suis un modèle », ça ne nous est pas naturel. Et ça pourrait être mal compris. J'avais introduit par une petite histoire, une discussion entre pasteurs, qui se demandaient les uns les autres quelle version de la Bible ils préféraient. Alors l'un disait qu'il préférait telle version pour telle ou telle raison, un autre disait « moi je préfère telle traduction, elle est plus ceci et plus cela », et au troisième pasteur lui disait « et toi c'est quoi la version que tu préfères ?» Et lui de dire « la version que je préfère, c'est celle de ma mère ». Il avait été interpellé, ta mère a écrit une Bible, elle a fait une version. Et expliquait qu'il préférait la version de sa mère parce qu'il avait, au travers de la conduite de sa mère, l'illustration du message de la Bible. Et c'est ça, être un modèle. Que nous soyons des hommes et des femmes que les gens peuvent observer et comprendre par nos attitudes, par nos paroles, par notre conduite, par notre amour, par notre foi, par notre sainteté, par notre pureté de vie, un exemple à imiter. Et nous avons vu que le principe du modèle n'est pas seulement une illustration parmi d'autres, un moyen, mais c'est même le principe que Dieu a donné. Il nous est dit que Moïse fit le tabernacle selon le modèle que Dieu lui avait donné. Et on voit que Dieu a donné les moindres détails. Tout était visualisé dans l'esprit de Moïse. Et Moïse n'avait plus qu'à faire exactement selon le modèle, dans les moindres détails. Exactement pareil pour la construction du temple. David avait reçu de la part de Dieu le modèle de la construction du temple. Il savait ce qu'il fallait faire, ce qu'il convenait de faire. Jésus lui-même dira qu'il ne fait rien de lui-même et qu'il ne fait que ce qu'il voit faire du Père. Jésus lui-même. Et puis nous avons vu là toutes ces références-là, en tout cas évoquer ces références-là, et peut-être que j'en ai oublié. Ou Paul, qui est l'apôtre, nous invite à être des modèles, à imiter le modèle. Nous ne sommes pas appelés à être des clones, mais des imitateurs. C'est pas pareil. Je ne vais pas être comme un tel, mais je veux voir en lui un exemple sur lequel je peux m'appuyer pour me construire moi-même et pour tendre à un progrès. Donc nous sommes véritablement là, non pas dans un principe purement pédagogique au sens humain du terme. C'est pédagogique, oui, mais c'est d'ordre divin. Et puis même la nature nous l'enseigne. Les enfants grandissent sur le modèle de leurs parents. Un enfant qui n'a pas de modèle est un adulte qui se cherchera. Parce qu'un enfant, il grandit, il fait par imitation, par reproduction. Il se construit sur ce modèle-là. Donc c'est un principe divin. Être un modèle, ce n'est pas du tout une question de supériorité, de prétention. C'est pas quelqu'un qui va se dire « Regardez comme je suis quelqu'un de bien !» Regardez comme en moi là vous avez l'illustration de ce qu'il faut faire. Non, la notion de modèle que Dieu nous demande d'accepter dans notre cœur, c'est pour nous parler de notre responsabilité. En tant que parents, nous ne sommes pas les parents parfaits. Enfin, non, j'ai oublié de poser la question. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un, un parent qui est parfait? Et nos enfants le savent.
Oui.
Peut-être que quelques-uns ont déjà eu la langue assez déliée pour nous le rappeler. Mais d'ailleurs, nous ne revendiquons pas être des parents parfaits. Nous ne revendiquons pas être des chrétiens parfaits. Et aucun pasteur ne peut se revendiquer d'être un pasteur parfait. Donc ça, c'est déjà mis de côté. Par contre, en tant que parents, nous sommes conscients de notre responsabilité. En tant que chrétiens, nous sommes également appelés à prendre conscience de notre responsabilité. Nous sommes appelés à être des modèles parce que Dieu veut qu'on réalise notre responsabilité de modèle. Il n'est pas question, quand on parle de modèle, de nous placer au-dessus des autres. Ce n'est pas la personne qu'on glorifie. Ce n'est pas une question de hiérarchie. Mais le modèle sert à quoi ? À encourager au contraire celui qui serait plus faible. La notion de modèle, comme qui nous est évoquée dans la parole de Dieu, et quand Dieu nous demande d'être des modèles, c'est pas de chercher à avoir la meilleure place, à être le « m'as-tu vu ? Écoutez-moi ! Regardez-moi ! » Mais c'est au contraire avoir ce désir d'être un modèle, conscient d'être un modèle, afin d'encourager le plus faible, le plus petit. Je n'ai pas regardé les autres de haut, ce serait au contraire le porter.
Amen.
Le supporter, l'encourager. C'est en ce sens-là que nous devons que nous sommes appelés à rechercher des modèles. Et là, il faut que nous fassions un effort humain. Quand la parole de Dieu nous appelle à être des modèles, ce n'est pas l'individu qui est intéressant, mais ce sont les valeurs qu'il porte.
Amen.
Nous, les hommes, on aime bien élever les personnes. On aime les noms. Ah, tu connais un tel ? Tout de suite, on a l'impression que... Ah, je connais telle personne. Ah, tu connais telle personne. Mais on s'en fiche des personnes. Pardonnez-moi. Nous n'avons pas de nom. D'ailleurs, je vous ai dit qu'au ciel, Dieu nous donnera un nom nouveau.
Amen.
Donc vous pouvez vous appeler n'importe quel nom de star ici-bas. Au ciel, vous aurez un nom nouveau. Que Dieu seul connaît. Donc vous serez anonyme là-bas. Enfin, c'est une image que je veux dire. Ce n'est pas votre personnalité qui sera connue. Parce que notre personnalité, elle est polluée par le péché, dès la naissance. Mais ce qui est, doit mettre en évidence dans notre façon de vivre, dans nous en tant que modèle, ce ne sont pas nos personnes, mais ce sont les valeurs. Et je le rappelle, tu peux mettre, tiens, la diapo d'après, s'il te plaît. Et c'est pour ça qu'il est très important de retenir cette référence. Sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi. En pureté, en manière de vie, en pureté, en sainteté. Nous devons, c'est pas, là il n'y a pas, il n'est pas en train de dire, Timothée, il faut que tu sois quelqu'un qui est vraiment mieux que les autres. Il faut que l'Église se rappelle de ton nom. Il faut que tu sois véritablement un leader charismatique. Rien du tout. Mais il faut qu'il soit quelqu'un qui porte ses valeurs. Et quand on regarde Timothée, quand on regarde les chrétiens, quand on nous regarde, quand on me regarde, quand on te regarde, il doit y avoir ça qui doit se communiquer, se transmettre. Nous devons prendre conscience de notre force d'influence, mes bien-aimés. Nous avons une force d'influence. La question, c'est de savoir est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle est mauvaise. Et nous devons rechercher, évidemment, à avoir une bonne force d'influence. Et ce que nous avons vu la dernière fois, c'est que tout le monde est appelé à être un modèle. Tous. Dans cette expression, on avait remarqué que Timothée était plutôt un jeune. Ah ben non, c'est pas un jeune qui peut être un modèle, si. Si il a ça, déjà dans sa vie. Et il y a des jeunes qui sont déjà des exemples. En parole, en conduite, en amour, en foi, en sainteté. C'est pas le nombre des années qui importe. Mais c'est cet enrichissement, cette valeur intérieure. On avait vu que nous sommes appelés à être des modèles partout, à la maison. Au travail, en lieu public. Nous sommes encouragés à être des modèles dans les services que nous occupons dans l'Église. Et au-delà de faire une activité, nous devons être des modèles, communiquer, transmettre quelque chose. Et nous avons vu que nous avons besoin qu'il y ait au milieu de nous des hommes et des femmes qui se lèvent comme modèles. Paul disait dans l'épître aux Corinthiens, soyez des hommes ! Soyez des hommes ! Il faut qu'il y ait des anciens qui se lèvent au milieu de nous. Il faut qu'il y ait des diacres qui se lèvent au milieu de nous. Permettez-moi de vous inviter à ouvrir votre Bible dans un premier épître de Timothée chapitre 3. Parce que quand on parle de diacre, quand on parle d'ancien, ce sont effectivement des fonctions qui sont confiées à des hommes, à des femmes pour les diacres et des hommes pour tout le travail d'évêque, de surveillant, d'ancien. Mais quand on va lire les critères qui nous sont donnés pour être devenir ancien ou pour devenir diacre, vous allez vous apercevoir que en principe, mais ça devrait être le critère pour tous les chrétiens.
Amen.
Pour tous les chrétiens. 1 Timothée chapitre 3. Cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, d'ancien, qu'il désire une œuvre excellente. C'est bien, il faut aspirer à cela. Vous voyez déjà la première point qui nous est donné là. Quand je dis à l'église, mais où sont les anciens? Ce n'est pas seulement une interrogation. J'espère réveiller en vous une aspiration, un désir. Quelque chose qui fait que ça réveille en vous un désir d'être une colonne, une référence, un modèle. Parce que c'est cela un évêque. Qu'il soit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, ni indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il retienne et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Alors il y a une grande lecture, il y a plein de choses à dire, mais j'ai voulu prendre le temps de faire cette lecture pour nous montrer que, honnêtement, c'est chaque chrétien qui devrait remplir ces critères-là. C'est l'objectif. On va pas dire, tiens, bah toi, comme tu occupes une fonction, il faut que tu sois comme ça, mais comme toi, tu fais rien, bah toi, tu peux faire n'importe quoi. Non, tu peux avoir une vie dissoute. Absolument pas. Mais cela signifie que dans l'Église, nous avons besoin de référents, de modèles. Et ces modèles-là sont après reconnus au milieu de nous, en tant qu'anciens, en tant que diacres. On s'est même demandé et posé la question. Mais où sont les femmes mûres pour encourager les plus jeunes? Et pourtant, c'est un besoin, c'est une nécessité. L'Église, les chrétiens, les chrétiennes ont besoin de modèles dans l'Église. Elles ont besoin de s'encourager dans ce sens-là. Alors, qui est suffisant pour être un modèle? Quand il nous est dit que, entre autres, l'ancien doit être irréprochable. Quand on parle de modèle, cela ne veut pas dire que l'on est sans défaut. Le seul qui soit parfait, le seul qui soit sans défaut, c'est Jésus. Et déjà, ça nous rassure, parce que Dieu ne nous demande pas d'être sans péché, ça n'existe pas. Que personne ici ne cherche à paraître être sans défaut et sans péché. Ce serait peut-être même une manière de se mentir à soi-même, je pense. Que de chercher à vouloir paraître ainsi. D'ailleurs, quand on cherche trop à paraître, c'est qu'on cherche trop à cacher quelque chose, d'ailleurs. Nous sommes appelés à être ce que nous sommes. Et attendre à devenir parfait. Attendre à ne point avoir de zone d'ombre, de conflit, de misère. Personne n'est parfait. Alors, qui peut être un modèle? Mais il n'y a pas de contradiction à cela. Au contraire, un modèle, c'est quelqu'un sur qui on peut copier. C'est quelqu'un que l'on peut observer et pouvoir s'appuyer, imiter. Et un modèle est quelqu'un qui est capable de se tromper, mais qui doit aussi avoir la capacité de le reconnaître, de demander pardon, de rectifier sa marche, d'aller au-devant de l'autre, de se remettre en question. Et ça, c'est un modèle. Nos enfants ont besoin de parents qui savent demander pardon. Parce que si vous ne le faites pas, ils ne le feront pas. Nous avons besoin de chrétiens qui soient capables d'aller voir son frère et sa soeur et dire « Oh, en fait, pardon, la dernière fois, je t'ai parlé comme ça, mais ça m'a travaillé l'esprit et je reviens dessus. » Et c'est ça. Le monde n'a pas besoin d'idoles ou d'images. Ça, il y en a plein à la télé. Mais les chrétiens ont besoin d'exemples de pardon, de réconciliation, de restauration, de consolation. C'est même dangereux, quelqu'un qui serait capable de faire une erreur sans demander pardon. C'est-à-dire que cette personne-là recommencera son erreur. Ça ne suscite pas la confiance. Quelqu'un qui ferait une erreur, d'une manière ou d'une autre, on essaye un peu de lui faire comprendre la chose, mais elle ne se remet absolument pas en question. Non, c'est comme ça, je suis comme ça, c'est comme ça. Mais c'est dangereux, parce que ça veut dire que cette personne-là refera la même erreur. L'Église a besoin de modèles, pas de gens parfaits. D'ailleurs, je ne sais pas vous, mais moi, les gens parfaits, j'ai un peu de mal avec eux. Parce qu'eux-mêmes me font comprendre qu'ils sont parfaits. Et donc, quelque part, entre toi et moi, là, mon pote, il y a une distance. Tu ne pourras pas comprendre ce que moi je comprends. Tu ne pourras pas vivre ce que moi je vis. Parce que moi, tu sais, avec le Seigneur. Ah. Mais être modèle, ce n'est pas ça. C'est pas se placer au-dessus, être un intouchable, un train parfait. On a besoin de modèles qui soient capables de se remettre en cause. Des gens qui sont, non pas, qui sont en train de dire « Regardez, je suis vraiment quelqu'un d'idéal !» Mais des gens, des modèles qui sont capables de dire, qui ont dans leur cœur le désir d'encourager les autres, et auprès de qui on peut voir des démarches de pardon et de réconciliation. Pas question de chercher donc à vouloir paraître, pas de prétention. Je dirais plutôt que la notion de modèle, c'est plutôt une notion de prévention. Vous savez, faire la différence avec la prévention et la répression. La répression, on voit quelqu'un qui fait une faute, on lui fout une claque. La prévention, on le prévient, fais attention, il y a un risque. Après, s'il fait ce risque, c'est lui-même qui subira la claque. Et les anciens, les modèles, sont là en prévention. Ils ne sont pas là pour être dogmatiques. Il y a du monde, on te l'avait dit. Mais par leur manière d'être, par leurs agissements, par leurs attitudes, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Ils sont des messages, ils sont des hommes et des femmes de prévention. Ils sont au milieu de nous, une atmosphère qu'ils communiquent. Et ainsi, lorsqu'il y en a un ou une qui commence à prendre un chemin différent de celui que le Seigneur nous demande, alors il est déjà prévenu dans sa propre conscience par l'attitude des autres. Nous avons besoin de modèles dans l'Église. C'est en Hébreux, chapitre 13, verset 7, qui est écrit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu et considérez, non pas leur nom, leur titre, ce qu'ils ont fait, qu'importe ça, considérez quelle était leur fin de vie, quelle a été leur foi. » Est-ce que je pourrais accepter, est-ce que vous pourriez accepter que le frère de gauche, de droite, puisse examiner votre vie et puisse tirer des conclusions sur votre foi? Il n'y a que Dieu qui peut me juger, mais c'est faux. C'est faux. Nous sommes appelés et également à être sondés, éprouvés, jugés, considérés, évalués par le regard des autres. Non pas condamnés, non pas jugés, mais évalués, oui. Parce que Dieu nous appelle à être des modèles. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous vivons pour les autres. Paul n'avait aucun problème avec ça. Paul, c'est pas de la prétention. Mais il dira en 2 Timothée chapitre 3 verset 10, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. » Vous vous rendez compte ? Quelle intimité ! Afin qu'il connaisse vraiment ses projets, sa foi, sa douceur, son amour, sa constance, ses persécutions, ses souffrances. Il le dit, voilà, dans tous les aspects de ma vie, tu as vu, non pas que j'étais quelqu'un de parfait, mais tu as vu comment je me suis comporté. En parole vivante, il est écrit, tu as écouté mon enseignement, tu as observé mon comportement, et tu en as fait la ligne de conduite de ta vie. Tu t'es appliqué à me suivre dans mes conceptions, dans mes projets. Et il serait extraordinaire que chacun d'entre nous, nous puissions nous prendre en exemple les uns les autres. Tira, la manière de vivre de mon frère, moi elle m'inspire. La manière de réagir de ma sœur, ça m'inspire. La manière de traiter le problème de mon frère, ça c'est bon ça. La manière de gérer sa situation avec ses enfants, et c'est pas difficile, c'est pas facile, mais sa manière de faire, elle est bonne. Et c'est ainsi qu'on devient des modèles. Chacun dans des aspects différents, chacun avec nos problématiques, chacun avec nos caractères. Nous sommes tous différents, mais ce qui est important, c'est savoir si nous sommes un critère de modèle, de référence. En parole. Est-ce que toutes les paroles que nous disons, les gens pourraient les écouter et applaudir. Dire, ah ça c'est de bonnes paroles ça mon frère. À la maison, au travail, chez le boulanger. À l'église souvent ça va, c'est plutôt dès qu'on commence à aller sur le parking que ça commence à dégénérer. Mais il doit y avoir un truc entre les deux, je sais pas. Non c'est une plaisanterie, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais nous sommes appelés à être des gens que nous pourrions examiner, passer au scalpel, à la loupe, au scanner, tout ce que vous voulez, et dire, ouais, là. Et si jamais nous nous trompons, bon, je suis le seul dans ce cas-là, hein. Mais si jamais je me trompe, vous, ça vous arrive pas, c'est pour ça, c'est si jamais un jour ça vous arriverait, nous devrions être susceptibles de continuer à être des modèles en rectifiant notre erreur, en demandant pardon, à reconnaître notre erreur. Pas la peine de s'entêter. Pas la peine de dire, mais moi c'est comme ça. Mais oui, mais comme ça, c'est pas bon. Ah oui, Seigneur, pardon. Pardon, mon frère, pardon, ma soeur. Pardon, Seigneur, d'avoir mal agi. Pourquoi est-ce que c'est si important d'être un modèle? Je n'ai pas seulement le fait d'être un modèle. Mais c'est être conscient d'être un modèle. Et ça, ça change tout. Si je me donne l'objectif, je suis un modèle, je veux être un modèle, il est possible qu'on mette plus l'accent sur l'extérieur que sur l'intérieur. Mais si on prend conscience que Dieu veut que je sois un modèle, alors là, c'est notre être intérieur qui se ressaisit.
Amen. Amen.
C'est le bonhomme de l'intérieur sur lequel on va veiller. Parce qu'on prend conscience qu'on a un devoir vis-à-vis des autres. On a une responsabilité à l'égard des autres. Et ça, ça nous aide. Pardonnez-moi, je crois qu'on est aussi humain à ce niveau-là. Mais on a besoin de tuteurs comme ça. De tuteurs moraux, de tuteurs spirituels. Il y a des choses que l'on fera peut-être plus à cause des autres que pour nous-mêmes ou même devant Dieu. Parce qu'il y a une sorte de conscience, d'obligation morale. Mais elle est bonne, celle-ci. C'est pas question de faire les choses avec hypocrisie. C'est que il y a notre conscience humaine qui est gâchée par le péché, et il y a la conscience que Dieu veut développer en nous. C'est pas pour rien que Job dira « Je fais plier ma volonté aux paroles de ta bouche ». C'est pas pour rien que Paul, lorsqu'il décrit l'action du Saint-Esprit, nous dira que l'Esprit a des désirs qui sont contraires à ceux de la chair. Si on se pose seulement sur notre « Je suis comme ça, c'est ma sensibilité, je crois que… » Mais on se trompe si on ne se base que là-dessus. Parce que Dieu veut que l'on soit un modèle. Alors au-dedans de nous, il y a cette rigueur, ce tuteur moral et spirituel qui fait qu'il y a des fois… Je vais me forcer. Je vais tendre un peu le trait. Je vais accentuer cet aspect-là, non pas parce que j'ai envie, mais parce que j'ai un devoir à l'égard de mon frère, de ma sœur, de mes enfants, de mon épouse, de l'Église, des âmes. Mais qu'il y a une nécessité aussi de prendre conscience que nous sommes des modèles. Et ça, ça nous est utile, même pour notre propre vie, pour notre propre marche. N'oublions pas, je sais que je l'ai déjà dit plusieurs fois, que nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Ça, il faut que ce soit ancré dans notre mentalité, dans notre manière de faire, dans nos manières d'aborder les choses, dans le service, dans l'évangélisation, dans le rapport avec mon frère, avec ma sœur, en tout. Je ne veux pas seulement faire sortir de ma bouche ce que j'ai envie, mais je veux faire sortir quelque chose qui soit utile pour mon frère, pour ma sœur. On ne vit pas pour nous-mêmes. Quand il nous est dit « Sois un modèle pour les fidèles », c'est que cela doit nous aider à nous construire, à faire des progrès. On doit s'encourager à cela. Nous avons besoin de modèles. Si nous négligeons la chose, si nous négligeons de mettre en évidence cette réalité des modèles dans l'Église sera molle. Elle sera sans fondement solide. Elle sera sans structure. Elle sera comme toujours un peu flottante. On voudra mettre en projet, il y aura peut-être le Saint-Esprit qui va amener des éléments nouveaux, mais il n'y aura pas de mur. Ce serait comme si on vivait, je ne veux pas être péjoratif, dans une caravane, où dès qu'il y aura un peu de vent, ce ne serait pas rassurant. Il faut qu'il y ait au milieu de nous des anciens, des diacres, des responsables, des modèles. Et ça c'est pas de la politique. Ça doit se susciter de l'intérieur. Comme on l'a vu, si quelqu'un aspire, on ne peut pas dire à quelqu'un « Sois un responsable, sois un modèle. » Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne de l'intérieur.
Amen.
Et qui enracine l'Église dans quelque chose de pérenne, dans quelque chose qui dure. Il faut que nos jeunes convertis puissent avoir au milieu de nous des hommes, des femmes sur lesquels ils peuvent regarder, poser leur regard et dire « J'ai envie d'être comme lui, j'ai envie d'être comme elle. » Il le faut ça, il faut qu'il y ait au milieu de nous des gens qui viennent de l'extérieur et qui se sentent avoir autour d'eux des repères solides. Récemment j'étais parti à l'ITB et j'avais une petite demi-heure ou trois quarts d'heure, je ne sais pas. Je suis allé à la bibliothèque. Et puis à la bibliothèque, ils ont mis toutes les tables un peu au milieu pour que les étudiants travaillent. Ils étaient 6-7 étudiants et... Je m'installe à côté d'eux, je ne voulais pas les déranger. Et puis je sens que ma présence les gêne un peu. Je sens que j'ai des petits rires un peu forcés, un peu gênés. J'ai dit, excusez-moi, vous parlez de quoi? Parce qu'à la fois qu'ils rigolaient, qu'ils ricanaient un petit peu, qu'ils étaient un peu gênés, ils jetaient des petits regards sur moi, donc je comprenais que j'étais un peu le cheveu sous la soupe, quoi. Mais qu'à notre côté, il y avait le petit regard qui demandait un peu, vous savez. Je dis, mais de quoi vous parlez hein? C'est pas indiscret si je sens que je vous gêne un peu dans... Et effectivement, il parlait de sujets qui sont peut-être un peu tabous à prêcher dans l'Église, mais qui sont de véritables questions pour des jeunes adolescents qui découvrent leur corps, la sexualité. Il dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Et alors, ils sont dans une bibliothèque avec plein de livres, plein de théories. Mais ils avaient besoin de modèles, de référents, de quelqu'un à qui on parlait directement. Et que dire et comment faire? Et là, ce n'est plus les théories, ce n'est plus la théologie. C'est des modèles, des exemples. Quand dans la Bible, il nous est dit que les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, c'est qu'il y a des questions pratiques, pardonnez-moi l'expression, techniques. On n'est plus dans la théorie. Et il faut qu'il y ait des accompagnements. Et quand on parle de modèle, de soutien, de repère, c'est cela. C'est pas seulement « Oh, que le Seigneur te bénisse !» sur un ton très solennel, très spirituel. « Oh, le Seigneur te bénira !» Oui, merci mon frère. Mais moi, je fais comment avec mon problème à la maison? Toi, tu aurais fait comment? Concrètement. Et c'est ça, être un modèle, un référent, un pilier. Ce n'est pas les postures, mais c'est être capable d'être des hommes et des femmes de confiance, de bons conseils et de bonnes inspirations. Être un modèle ne signifie pas non plus donner des leçons à tout le monde. Être un modèle, c'est pas toujours avoir raison non plus. Être un modèle, c'est surtout avoir le désir de communiquer quelque chose.
Amen. Amen.
C'est avoir ce désir de d'aider, d'épauler. Être un modèle, c'est avoir une manière de vivre, de faire, de parler qui est en conformité avec les valeurs de la parole de Dieu. C'est ça. D'ailleurs, vous ne pouvez pas vous dire vous-même, je suis un modèle. Peut-être même que vous serez un modèle à votre insu. Et peut-être que si vous vous trompez vous-même, vous croirez être un modèle sur un point qui a besoin d'être développé, travaillé, sanctifié. Mais l'essentiel, ce n'est pas la forme encore, mais c'est le désir, c'est le cœur. Et il faut être en conformité avec les valeurs du royaume de Dieu.
Amen.
Être un modèle, c'est chercher à encourager, à enrichir, à développer notre le plus faible. Être un modèle, c'est être capable de se remettre en question, de se remettre en cause et de reconnaître notre erreur. Le dernier point que je voudrais voir avec vous, c'est que si nous sommes appelés à être des modèles, cela signifie aussi qu'il doit y avoir au milieu de nous une culture de l'obéissance, une culture de l'humilité, une culture de l'écoute. Que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise. Alors bien sûr, je crois que le sens de la phrase, c'est de dire à Timothée, t'inquiète, t'es jeune, mais bon, c'est pas parce que tu es jeune que tu dois te dénigrer, te rabaisser. Tu n'es pas méprisable. Mais quand même, il y a une sorte de tourneur de phrase où on a l'impression qu'il parle aussi à l'église, que personne ne méprise. La jeunesse de Timothée. On peut avoir des modèles et à côté des gens complètement aveugles, sourds, refusant de se remettre eux-mêmes en cause. Il faut qu'il y ait aussi au milieu de nous la culture de se laisser enseigner, repris, encourager. Seigneur, fais lever des modèles. Mais fait que nous aussi, on sache ouvrir les yeux et qu'on sache reconnaître chez mon frère, chez ma sœur, un modèle. Récemment, j'ai pris le train, 5 heures de train, et il y avait un monsieur qui était venu avec 3 enfants, 3 petits bouts de chou. Et bien, il m'a scotché, le monsieur. Pendant les 5 heures, il était là à jouer avec les enfants, à bien les cadrer, à leur écoute. Moi, j'aurais pas tenu une heure. J'aurais fini par dire, oui, c'est bon, vous me saoulez, vous asseyez là, hein, c'est bon. Hein. Seigneur, pardon. Et pendant 5 heures, moi, j'étais... Mais il a été, pour moi, un modèle. Et maintenant, dans mon cœur, j'ai dit, j'aimerais bien être un papa comme ça. J'aimerais être un papa patient comme ça. J'aimerais être un papa qui soit capable de jouer avec le plus grand, le plus petit, à gérer les tensions, parce que 3 enfants, hein, c'est... dès qu'il y en a un qui perd, c'est terrible. Mais je vous assure, cet homme, il était beau à voir. Il s'occupait pas de l'extérieur. Il le faisait pas par rapport aux autres, parce que pendant 5 heures, ça ne dure pas comme ça. Hein. Mais il était en tout cas, dans ce cadre-là, un bon papa. Mais il faut que nous apprenions aussi à regarder et avoir envie de voir des modèles. Avoir envie de faire des progrès dans tel ou tel domaine. Si on se satisfait, si on est content de notre vie, si on dit, oh, moi ça va, tout va bien, alors on ne sera pas à l'affût de ce qui pourrait nous servir de modèle, d'exemple, d'encouragement. Philippiens chapitre 2, verset 3 nous dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Voilà le vrai modèle. C'est pas parce que c'est lui qui va se mettre au-dessus de moi, c'est parce que moi je vais voir en lui un modèle. Et là je vais le mettre au-dessus de moi. Et j'ai là, lui là. Lui il m'inspire. Lui là il est meilleur que moi. Mais on devrait avoir ce désir. Alors, quand je dis meilleur, c'est entre guillemets. On est d'accord, hein? Mais un exemple, un modèle, un enseignant pour moi. Même s'il ne va pas me donner des leçons théoriques, quoi que ce soit, mais je vais avoir le désir d'apprendre de sa manière de faire, d'apprendre de son comportement, d'apprendre de ses paroles, d'apprendre de ses relations, d'apprendre de sa mentalité, d'apprendre de sa manière de gérer les choses. Et ça, et on peut avoir des modèles, mais nous devons aussi nous adopter une mentalité. On va accepter de voir chez mon frère, chez ma sœur, un modèle, un exemple. Quelque chose qui va me tirer vers le haut. Quelque chose qui va m'enseigner. Quelle que soit notre vie, on peut avoir 40 ans de conversion et avoir besoin de modèles, vous savez. Et un modèle n'est pas quelqu'un qui est complet en lui-même. Telle personne va être un modèle dans un domaine. Je parlais de cet exemple, de cet homme que j'ai rencontré dans le train. Je ne le rencontrerai peut-être jamais. Il a été pour moi un modèle dans sa manière de faire. Peut-être que dans d'autres domaines, il est catastrophique. Il y a des chances, c'est un homme. Mais je vais pas lui en tenir rigueur. Je vais juste garder en lui ce qui est bon pour moi. Et de temps en temps, il y a d'autres logiques entre chrétiens. On va regarder justement ce qui ne va pas. Et on passe son temps à regarder. Oh, lui, oh, tu l'as vu, lui. Oh, et elle. Je te raconte pas ce qu'elle m'a dit la dernière fois. Et là, nous nous creusons nous-mêmes les tombes, mes bien-aimés. Mais quand on vient à l'église, en voyant l'exemple, le modèle que peut-être mon frère et ma soeur, alors on a envie d'aller à l'église. Parce qu'on a hâte de retrouver notre frère, notre soeur, et dire ah, lui, là, il est. Ah, chaque fois que je le vois. Et elle là, quel exemple. Ah, et lui là. Mais chaque fois qu'il fait ça parle à mon cœur. Et là, on inverse la tendance. On n'est plus dans une église de rabaissement, de cumul, de tristesse. Mais on est au contraire des exhortateurs les uns les autres. Amen. Des modèles. Il n'y a plus besoin de chercher à paraître. Parce que c'est les autres qui vont nous encourager. Est-ce que ça ne vous fait pas plaisir, honnêtement? Quelqu'un vous dit, ah, ta prière m'a fait du bien. Ah, tu sais, la dernière fois, j'ai parlé avec toi, ça m'a fait du bien les paroles que tu m'as données. Ah, tu sais, la dernière fois, on a discuté, ça m'a fait réfléchir ce que tu m'as dit. Est-ce qu'on me bombe le torse? Oui, non, qu'importe. Mais intérieurement, ça nous fait plaisir. Et on peut bomber le torse. De toute façon, le Seigneur nous permettra de le dégonfler à notre moment, vous inquiétez pas. Si on est honnête avec le Seigneur, c'est comme ça que ça se passe. Mais on a besoin aussi de sentir que on apporte quelque chose à nos frères, à nos sœurs. Vous savez, s'il n'y a pas au milieu de nous des modèles, les gens vont chercher les modèles ailleurs. Après la discussion avec ces jeunes, un jeune est venu me voir, il me dit, tu vois Benoît, c'est bien qu'on en ait parlé parce que comme ça fait partie des sujets qu'on n'ose pas en parler, ben moi j'ai cherché des modèles dans le monde. Nos jeunes vont chercher des modèles dans le monde s'ils ne sont pas dans l'église. Parce que, qu'on le veuille ou non, mais c'est un principe divin. On a besoin de modèles. Vos enfants ont besoin de vous comme modèle. Si vous n'êtes pas un bon modèle, ils vont construire sur un mauvais modèle. Et s'il n'y a pas de modèle du tout, ils vont le chercher ailleurs. Et là, vous n'avez aucune garantie. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de prédicateurs. Je suis conscient qu'en tant que pasteur de cette église, vous avez une multitude de prédicateurs. Avec quelques clics. Et qu'est-ce que dit un tel? Et qu'est-ce que dit un tel? Et qu'est-ce que dit un tel? Mais c'est tout à fait normal. Si les modèles ne sont pas à l'intérieur, on a besoin de modèles. Donc on va les chercher ailleurs. Mais si les modèles sont dans l'église, alors ça permet d'avoir de bons repères, de bonnes fondations, des bases solides. Qui seront éprouvées, ça c'est normal. Mais elles sont vérifiables. Mais s'il n'y a pas ce relationnel entre nous, cet objectif, cette motivation, ce désir-là, de cette excellence, d'abord en moi-même, afin d'être un sujet de bénédiction pour mon frère. Alors, il ne faut pas s'étonner qu'on aille à gauche, à droite. On avait vu que Dieu avait donné ses plans, son modèle exact, dans les moindres détails. Et je crois que pour notre vie, le Seigneur nous a donné tout ce qu'il nous faut, non ? On sait comment il faut parler. Il sait comment on doit se comporter. On sait. Ne soyons pas des malhonnêtes avec Dieu. On sait. On peut se donner des raisonnements, des arguments. On peut se voiler la face, mais au fond de nous, on sait ce qui est agréable à Dieu ou pas. Et il y a un homme comme ça. Et lui, un jour, il va en Assyrie. Et puis il y avait des temples pour des cultes païens. Puis qu'est-ce qui... Déjà, il se trouve dans un temple et il voit un autel. Il le trouve beau, l'autel. Il le trouve à son goût. Mais il est chouette, cet autel-là. Et la folie de cet homme. Parce qu'il a trouvé ça tellement chouette qu'il a voulu exactement faire le même dans le temple de Jérusalem. Et il l'a fait. Hein. Prenons garde. Parce que si nous ne respectons pas les modèles de Dieu, si nous ne prenons pas les critères de Dieu, si nous voulons faire à notre goût, à notre sensibilité, à notre « oui, mais moi, je pense que… » Alors nous allons installer de faux autels au milieu de nous. Des fausses idoles. Des mensonges au milieu de nous. Et s'il n'y a pas de modèle, de référent, d'ancien, qui soit capable d'enseigner, c'est pour ça qu'il y a cette capacité. Alors on considérera comme normal ce qui est profane. On considérera comme normal ce qui est à bannir. On considérera comme tout à fait acceptable ce qui est condamnable. Nous avons besoin de modèles dans l'Église. D'hommes et de femmes qui soient des référents, des référentes. Et que nous puissions les uns les autres nous observer, non pas pour nous critiquer. Il y aura toujours matière à ça, je ne dis pas ça. Hein. Mais il y a aussi au milieu de nous, dans chacune de nos vies, des exemples, des modèles, des sources d'encouragement à découvrir, à s'appliquer, afin que nous puissions être une église qui se fortifie et que les gens qui viendront de l'extérieur, les enfants qui grandissent au milieu de nous, les jeunes convertis qui viennent d'être baptisés, puissent se dire, il y a dans cette église des hommes et des femmes qui sont pour moi des exemples, des modèles, des référents. Amen.